Europe 1.
Rose Bertin, la marchande de mode de la reine Marie-Antoinette, est la mère de la haute couture en France au XVIIIe siècle. Née dans une famille modeste de Picardie, elle ouvre sa propre boutique à Paris à l'âge de 26 ans et devient la créatrice des looks de la reine de France. Marie-Antoinette est érigée au rang d'icône de la mode, au point d'en oublier que ce n'est pas le rôle d'une reine de France. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Rose Bertin, la créatrice de la haute couture, épisode 2, ruban et dépôt de bilan. Nous voilà dans la seconde moitié des années 1770. Marie-Antoinette est une jeune reine de France. Blonde aux yeux bleus, avec un corps bien fait, elle est un peu une grande Barbie pour l'époque. Un bonheur à habiller pour Rose Bertin, sa nouvelle marchande de mode. Rose n'a pas l'exclusivité, mais c'est elle qui lui livre le plus d'articles et d'accessoires. D'ailleurs, au frontispice de sa boutique située rue Saint-Honoré, on peut maintenant lire « Marchande de mode de la reine ». Rose Bertin est reçue deux fois par semaine à Versailles. Ce sont des rendez-vous convenus à l'avance, à heure fixe. Mais parfois, quand il y a un grand événement à préparer, elle peut venir plus souvent. Elle s'est même pris un appartement dans la ville de Versailles pour accourir auprès de la reine dès qu'elle est demandée. Tout le monde la salue en faisant des tonnes comme si elle était une impératrice. Il y a ceux qui la détestent, par pure jalousie bien sûr, et ceux qui cherchent à gagner son amitié pour qu'elle plaide en leur faveur auprès de la reine. Mais la marchande de mode se fiche de ses jeux de pouvoir. Son plaisir à elle, la roturière qui a fait fortune dans le commerce, c'est de snober les aristocrates qui lui font des courbettes. D'ailleurs, elle a des privilèges que bien peu de courtisans ont à la cour. Rose est reçue dans l'intimité de la reine, dans des endroits où certains aristocrates n'entrent jamais, dans des pièces inconnues même de certains domestiques. Marie-Antoinette a récupéré les appartements privés de Marie Leszczynska, l'épouse de Louis XV, sauf qu'elle les a agrandis et redécorés à son goût. À quelques pas de la cour de marbre, il y a tout un réseau de petites pièces, de salons, de méridiennes, de bibliothèques, de salles de billard qui forment les cabinets intérieurs de la reine. C'est presque une maison bourgeoise cachée au cœur du château. Seuls les intimes de Marie-Antoinette y sont admis. Parmi ces rares privilégiés, il y a Rose Bertin. Quand la marchande rejoint la reine, elle dit pompeusement qu'elle va travailler avec sa majesté ou qu'elle tient conseil. J'aime autant vous dire que cette manière de se prendre au sérieux pour des plumes et des rubans donne du grain à moudre aux langues de vipère. D'ailleurs, Rose Bertin est vite surnommée la ministre de la mode, ce qui n'est qu'un demi-compliment. C'est donc dans ses cabinets, et vraisemblablement dans la petite pièce mauve et or de la méridienne, que Marie-Antoinette reçoit Rose Bertin. Dans cette pièce, il y a plein de miroirs, mais surtout, on a retrouvé des épingles de couturière coincées entre les lattes de bois du plancher. Ensemble, pendant leur long rendez-vous, Rose et Marie-Antoinette inventent des styles. Une marchande de mode s'occupe notamment de tout ce qui se met dans les cheveux, à l'exception des chapeaux en feutre qui sont l'apanage des chapeliers. Et c'est à Rose Bertin, en partenariat avec le coiffeur Léonard, à qui l'on doit le pouf. Le pouf, c'est un coussin en crin assez haut sur lequel on va venir coller les cheveux qu'on fait tenir avec de la graisse de porc. Au début, le pouf fait dans les 30 cm de haut, et puis ça va monter jusque dans les 1,50 m. Oui, une coiffure haute de 1,50 m. Bref. Monsieur Léonard coiffe les cheveux de la reine sur le pouf et Rose invente la garniture du pouf. Au début, ça commence gentiment avec la coiffure Kesako, une expression que la jeune reine adore. Il s'agit de coller un panache de plumes à l'arrière du pouf. Et puis Rose invente le pouf au sentiment, une coiffure biographique où on se colle dans la tignasse des objets personnels. Par exemple, la duchesse de Chartres, la protectrice de Rose. Elle s'est fait un pouf au sentiment avec des effigies de son perroquet, de son petit nègre, c'est-à-dire du petit garçon noir qui la divertissait, comme on disait à l'époque, de son fils, alors bébé, et en plus d'une mèche de cheveux de son mari. Et puis le pouf va devenir une espèce de gazette de l'actualité, avec un bateau de la marine française pour l'aide que la France apporte aux États-Unis lors de la guerre d'indépendance, par exemple. Ou une seringue quand la famille royale se fait inoculer la variole. Évidemment, l'imagination sans bornes de Rose Bertin ne se limite pas aux accessoires de pouf. Marie-Antoinette, qui déteste être empêtrée dans son habit de cour, exige un allègement de ses parures. Les poufs passent de mode au profit de coiffures plus légères et bouffantes avec de longues boucles qui retombent sur les épaules. Côté vêtements, Rose démode donc pour le plus grand bonheur de la reine les robes à la française au profit des robes à la polonaise. Fini le plissé dans le dos et les traînes, les ornements de buste sont allégés, l'épouvantable corps à baleine est remplacé par un simple corset, les paniers sont remplacés par un cul en tissu qui accentue la chute de rein, et surtout, les jupes et les jupons ne traînent plus par terre. Ça, c'est un vrai bonheur pour danser. Avec tout ça, Marie-Antoinette dépense environ 90 000 livres par an au Grand Mogol, la boutique de Mademoiselle Bertin. Pour vous donner une idée, ça fait environ 1 030 000 euros aujourd'hui. En 1778, Marie-Antoinette est enceinte. C'est une grossesse très attendue après de longues années de mariage non consommées. Rose Bertin invente une robe de grossesse pour sa souveraine, une sorte de robe de chambre qu'elle appelle un Aristote, sans doute à cause de l'inspiration antique. Lors de la cérémonie donnée à Notre-Dame de Paris à l'occasion de la naissance de sa fille aînée, Madame Royale, le 5 mars 1779, Marie-Antoinette remarque Rose Bertin debout sur un balcon sur le chemin du cortège. La reine s'arrête et la salue. Tous les courtisans dans le cortège imitent la reine. Et Rose Bertin enchaîne les révérences pour saluer tout ce petit monde. Ce jour, c'est son véritable triomphe. Dans les années 1780, Marie-Antoinette aborde la trentaine. Elle est plusieurs fois mère. Elle ne cherche plus l'extravagance dans ses tenues. Alors Rose Bertin crée pour elle la robe en gaule, une robe chemise d'intérieur en coton blanc, en gaze ou en soie. La silhouette, seulement soulignée par une ceinture, est totalement épurée. Les aristocrates proches de Marie-Antoinette qui suivent cette mode gagnent une véritable liberté de mouvement. C'est révolutionnaire. Et comme coiffure, Rose ne fournit plus avec ses robes que des chapeaux de paille agrémentés de rubans, de fleurs et de plumes. C'est dans une robe en gaule avec un chapeau de paille signé Rose Bertin que Marie-Antoinette va se faire peindre par Élisabeth Vigée-Lebrun en 1783. Ce tableau fait scandale. C'est comme si pour nous aujourd'hui, la duchesse de Cambridge posait sur son Instagram en mini-nuisette en dentelle. Donc Madame Vigée-Lebrun s'empresse de faire un second tableau de la reine avec une tenue plus classique. Malgré le scandale, les créations de Rose Bertin rendent l'aristocratie complètement folle. Avec la reine, elle a inventé la saisonnalité, une collection en chasse une autre en permanence et suscite toujours le désir de posséder et de dépenser plus d'argent. Les femmes aristocrates deviennent toutes des coquettes et les maris se plaignent d'être ruinés. Et ça va plus loin cette affaire. Le maréchal de Breuil interdit aux femmes habillées par Rose Bertin de venir visiter leur mari dans son camp militaire parce qu'elles rendent les soldats fous à force de minauder dans leurs nouvelles robes. Et la police de Paris interdit la vente de rubans Rose Bertin constellés de bris de verre, l'équivalent de nos strass, parce que ces bouts de verre coupants qui traînent partout deviennent un problème de santé publique dans la capitale. Les polémiques ne changent rien au succès de Rose. Dans les années 1780, elle est une femme riche. Elle possède une maison de campagne à Épinay et deux hôtels particuliers à Paris. Comme elle a refusé de se marier, c'est elle qui gère personnellement son propre business et ça lui réussit. En outre, pour lutter contre les corporations des métiers de la confection, elle participe à la création de la communauté des marchands de mode dont elle est la présidente et finance l'école publique, gratuite et laïque de dessin de mode qui deviendra plus tard l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Vous vous en doutez, dans un contexte pré-révolutionnaire, la réussite de Rose Bertin suscite la haine. On reproche à Marie-Antoinette de vider les caisses de l'État pour remplir les poches de sa marchande de mode. Évidemment, ces dépenses ne sont rien à côté du financement des guerres, et notamment de la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis. Mais peu importe, les mécontents veulent des boucs émissaires. Ils désigneront l'Autrichienne et ses proches. Au moment de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, Rose commence à fabriquer de mauvais gré des cocardes tricolores, mais elle s'exile avant la fin de l'année en suivant ses clients qui sont partis se réfugier dans les cours étrangères. Même si elle continue à avoir des clientes, notamment en Russie, Mademoiselle Bertin ne parvient plus à vendre des robes de cour et la mode made in France n'a plus grand succès. Elle continue cependant à fournir Marie-Antoinette après son départ de Versailles, d'abord aux Tuileries, puis à la prison du Temple. C'est elle qui lui fait livrer sa robe de deuil après l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. Et ce sont les bonnets de rose que la reine, ou la veuve Capet comme on dit maintenant, porte dans sa cellule de la conciergerie pendant son procès. Pour Rose, la mort de Marie-Antoinette sous la lame de la guillotine le 16 octobre 1793 est un choc. En 15 ans, les deux femmes avaient développé une véritable intimité. Rose Bertin rentre en France après les remous sanglants de la Terreur. À partir de 1795, elle loue une partie de sa boutique à un glacier italien. Elle peine à faire redémarrer ses affaires. La mode a radicalement changé. Les filles à la mode, qu'on appelle les merveilleuses, portent maintenant des robes diaphanes qui montrent tout de leur anatomie. Quand on pense que 12 ans plus tôt, on tournait de l'œil devant le portrait de Marie-Antoinette en robe en gaule. Pendant le directoire, c'est la délicieuse Teresa Cabarrus, la maîtresse de l'homme politique Jean-Lambert Tallien, qui donne le ton de la mode avec ses robes blanches aux allures de chiton grec, ces longues tuniques que l'on voyait alors sur les statues antiques. La mode, c'est tout ce qui se démode. Et à l'aube du Premier Empire, on revient à la mode antique. Mademoiselle Bertin essaye de suivre, mais plus personne ne veut payer une fortune pour un vêtement qui sera démodé dans 6 mois. Cette fois, c'est fini. Sous le consulat, Rose est has-been. Elle reste cependant la femme que tous les jeunes créateurs veulent dépasser, comme le sera plus tard Chanel face à la génération de Dior. Avec le début de l'Empire, c'est l'impératrice Joséphine qui devient l'arbitre de la mode et elle s'habille maintenant chez Louis-Hippolyte le Roi. Au Grand Mogol ferme ses portes en 1804. Rose prend sa retraite. Vers la fin du Premier Empire, le 21 septembre 1813, la marchande de mode de Marie-Antoinette croise l'impératrice Marie-Louise d'Autriche à Saint-Cloud. La seconde épouse de Napoléon est la petite-nièce de Marie-Antoinette. Pour la créatrice de mode, cette rencontre est un choc. Comme si le passé et le présent se télescopaient pour mieux lui signifier que son monde a disparu. En rentrant chez elle à Épinay, elle s'alite et meurt le lendemain à l'âge de 66 ans. Depuis, on a oublié ce que la mode doit à Rose Bertin. On a oublié que le XVIIIe siècle a permis à certaines femmes ambitieuses d'avoir de grandes carrières. C'est le rôle de l'historien de le rappeler. Pour en savoir plus sur les modes lancées par Rose Bertin, je vous invite à lire mon article à son sujet dans Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast et chaque week-end à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À très vite.